Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Vous savez, la télévision est devenue de nos jours un véritable média de loisirs pour les familles et surtout pour les enfants et dans bien de familles, parents, enfants et autres membres de famille restent souvent pendant vraiment un bon moment devant la télé en train de suivre différents programmes, mais des fois il y a également des images diffusées et qui peuvent soit nuire à l'éducation des enfants ou soit créer un traumatisme chez les enfants, avec notre invité Giscard Kousséma, qui est spécialiste en sciences de l'information et de la communication. On va découvrir les conséquences de telles images, surtout des images qui ont un caractère sensationnel. Nous rappelons le numéro de contact si vous êtes intéressé par ce sujet ou vous voulez appeler. Vous pouvez composer à les 081 890 63 94. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur la page Facebook au Capi et Service. Alors, dites-nous, Giscard Kousséma, qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre par le sensationnel à la télévision?
Oui, par image sensible ou sensationnelle, on peut entendre, Marcel, toute image fixe, c'est-à-dire une photo, une image mouvante, une vidéo, qui suscite une forte émotion. Donc, c'est une image susceptible de créer un choc dans les esprits de lecteurs ou de téléspectateurs. Une image sensible est une image qui peut heurter la dignité humaine. Bref, c'est une image choquante, une image bouleversante, une image donc horrible à voir. Une image, comme vous l'avez dit, qui peut créer des traumatismes. Vous savez, une image peut bouleverser tout un monde entier. Je peux donner des exemples des images dites sensibles. C'est les cas des images des cadavres, par exemple, des images des corps mutilés, des images des personnes grièvement blessées, des corps déchiquetés, des images des corps humains en décomposition, des images des personnes suicidées, des personnes mortes par pendaison, des images des personnes victimes des viols, ou encore des images des personnes en instance judiciaire. Et donc, on peut assimiler aux images sensibles toute image sur les enfants, des personnes en instance de justice, comme on l'a dit. Et l'exemple le plus frappant est cette photo qui fait encore le tour du monde depuis hier à travers le monde. C'est la photo d'un enfant syrien, Eylan, c'est son nom, qui a été retrouvé noyé sur une plage turque. C'est une famille de clandestins qui quittait leur ville de Kobana en Syrie pour essayer de trouver un Eldorado en Grèce. Et vous avez constaté que toute la charge émotive après la publication de cette photo à travers plusieurs médias. Alors, il existe, vous l'avez dit, toute une législation en rapport avec ces images choquantes. Je pense que c'est là qu'on va répondre, parce qu'on sait ici chez nous qu'il y a une pratique devenue courante de montrer parfois ces genres d'images à la télévision sans que cela ne meuve le propriétaire même de ces chaînes de télévision ou le responsable de programme.
Mais jusqu'à à la télé, du fois, on attend le présentateur d'un journal ou bien peut-être d'un magazine prévenir déjà en disant que les personnes sensibles doivent faire attention avec ces images. Est-ce que ça, c'est une bonne pratique ou bien il faut carrément ne pas montrer les telles images?
Écoutez, il existe toute une législation, comme je le disais, pour la diffusion, les traitements de ce genre d'images sensibles, parce qu'il y a des sanctions qui sont liées à la morale, au code d'éthique et de déontologie professionnelle, mais il existe aussi un ensemble de lois Karma, parce que on ne diffuse pas n'importe quelle image sensible à la télévision. Alors, Il existe des précautions, effectivement, comme vous l'avez dit. Lorsque on est obligé de diffuser ce genre d'images, on devrait prendre la précaution d'en informer les personnes de manière à permettre à ceux qui ne peuvent pas supporter ces chocs de ne pas rester devant la télévision. Ça fait partie des précautions, mais il y a des conditions dans lesquelles on peut diffuser une image ou non.
Bon, avant de parler de la législation, congolaise par rapport à la diffusion de ces genres d'images, quel état de lieu qu'on peut faire aujourd'hui chez nous en RDC par rapport à tout ce qu'il y a comme chaîne de télévision et par rapport à tout ce qu'il y a comme images diffusées, en tout cas du moins à caractère sensible ou sensationnel?
Oui, c'est un constat que tout le monde, que tout téléspectateur peut faire, c'est qu'il y a des chaînes de télévision ici chez nous qui se spécialise dans la diffusion des images choquantes, des images, ils sont à la recherche de sensationnels, et parfois ce sont des programmes à succès, ce sont des chaînes qui paradoxalement ont un certain audimat. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est par ignorance que les responsables de ces chaînes les font? Je ne pense pas, mais je pense plutôt qu'ils profitent du laxisme des instances de régulation des médias. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des conditions. Vous savez, une image est liée à la personne même, à la personnalité d'un individu. Donc, une image, elle est protégée. Il existe ce qu'on appelle ici les droits de l'image. Chacun de nous a droit à son image, à son intégrité, à sa vie privée. Et donc, on ne peut pas tout d'un coup, comme ça, au nom d'une certaine liberté de la presse, diffuser des images, parce que l'image est un attribut de la personnalité. Ça comprend non seulement la photo, mais aussi la peinture, les dessins, les enregistrements, les paroles. Donc, les droits à l'image est protégé de manière plus rigoureuse pour les mineurs d'âge. Et l'utilisation de l'image d'un mineur, par exemple, doit être autorisée par ses parents ou par les personnes titulaires de l'autorité parentale. Donc, il existe un ensemble de législations.
Oui.
Un ensemble de textes, des lois au plan interne, au plan national, tout comme au plan international. Et ce sont des textes, comme je le disais tantôt, qui peuvent être regroupés de deux ordres. Donc, sur le plan de la morale, sur le plan du code d'éthique et de déontologie, c'est d'ailleurs l'article 11, si je ne m'abuse, du code d'éthique et de déontologie qui demande à tout journaliste ou à tout responsable de programme de pouvoir respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc, en bref, ce n'est pas n'importe quelle image qui peut être diffusée à la télévision, sinon on s'expose à des sanctions professionnelles et même des sanctions pénales.
Ah bah, mais vous avez dit paradoxalement, c'est souvent de telles images qui attire de nombreux téléspectateurs, et mais malheureusement parmi ces nombreux téléspectateurs il y a les enfants, et c'est d'ailleurs ça aussi l'objet de notre sujet, des conséquences de certaines images sensibles sont diffusées par exemple sur ces chaînes sur les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, les succès d'abord de ce programme, c'est nous pouvons l'expliquer par la curiosité de l'interdit. Vous savez, l'homme a toujours tendance à découvrir l'interdit. Et comme ce sont des images rares qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, on les assimile un peu aux insolites. Là, comme ça, vous avez comme ça, à travers des programmes très populaires, mais dont les contenus posent des sérieux problèmes sur le plan de la morale et sur le plan pénal d'ailleurs. Et on a dit ici, une image peut bouleverser. Chacun de nous a une sphère de vie privée. Chacun a droit à la dignité. Et ça, toutes les lois de toutes les pays les reconnaissent, donc nous sommes tous égaux devant la loi, et que chacun de nous a une sphère de vie privée. Donc, on ne peut pas comme ça, comme on a l'habitude de le voir ici, des personnes en instance judiciaire qui sont montrées à découvert. Et parfois, les journalistes lui-même se présentent à un OPJ et se met comme ça à découvert à poser des questions. Et parfois même devant les officiers de police judiciaire qui, eux, sont habilités à les faire dans un autre cadre plutôt que devant de chaînes de télévision. Donc, il y a ces goûts de l'interdit. Mais il y a, comme on a dit ici, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Tout n'est pas permis. Parce que souvent, on se cache derrière le principe de liberté des presses pour dire, mais on oublie que cette liberté des presses a des limites. Et cette liberté, lorsqu'on voit même dans la définition du principe même de liberté des presses, on vous dira, par exemple, que les droits de tout le monde de pouvoir s'exprimer, mais dans les respects des droits à autrui. Et par ce qu'on entend par les droits à autrui, c'est entre autres les respects à la dignité humaine, et parce que certaines images peuvent choquer. Il y a des personnes qui sont très émotives, qui peuvent même en mourir. On l'a su ici, on a vu ici, on a vu beaucoup de personnes mourir simplement pour avoir subi un choc. Simplement, il y a des personnes, ces personnes-là méritent d'être protégées.
Voilà, on poursuit avec vous hein, jusqu'à Kousséma. Nous rappelons qu'on parle des émissions ou des images diffusées à la télé à caractère sensible ou sensationnel. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Nous avons déjà en ligne Junior Bouyama qui nous appelle de Kinshasa, également John qui est à Kinshasa. Si vous êtes également intéressé par rapport à ces sujets, vous pouvez appeler au 081-890-6394.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Junior Bouyama, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour Junior.
Oui, bonjour Monsieur Junior.
C'est Marcel. Allez-y, on vous écoute.
C'est Junior Bouyana Mali,
oui.
Pas Bouyana, Bouyana Mali.
Merci Junior. Allez-y, quelle est votre question?
Oui. Bon, d'abord, j'ai d'abord des suggestions avant de balancer ma question.
Allez-y.
Moi, à propos de notre émission, c'est un sujet vraiment très, très, très important. Monsieur le journaliste, moi, ça me fait mal. Les contenus que les chaînes de télévision nous diffusent actuellement à la télé, c'est vraiment sodomique. Vous voyez, en fait, dans le foyer, ensemble avec les enfants, l'image qu'on voit, par exemple, la musique. La musique dont nous suivons, donc c'est tellement sodomique. C'est comme s'il y a vraiment une absence de comité de censure. Donc, moi, je demande à notre invité, est-ce que le comité de censure, donc existe-t-il ou bien il n'existe pas? Deuxième question. Je voulais savoir maintenant, est-ce que, sur le plan des institutions, est-ce que le gouvernement congolais a élaboré des lois pour contrôler, précarer tous ces contenus-là abusifs des médias? Voilà, monsieur Dior.
Merci Junior, vous avez appelé de Kinshasa et toujours à Kinshasa, nous allons retrouver un autre auditeur, il s'agit de John. Bonjour John.
Bonjour Junior. Oui, je suis John Dibonga de Kinshasa. Je voudrais tout simplement intervenir en disant que l'invité a dit qu'il y a des images sensibles, la République démocratique du Congo a des lois protégeant les personnes par rapport à la diffusion de leurs images et consorts. Je voudrais dire ceci. Nous suivons tous, et je pense qu'il ne va pas me contredire, dans des chaînes de télévision internationales, dans des médias en ligne. Nous, si vous voulez chercher par exemple une catastrophe, par exemple le déraillement et consorts, vous allez voir qu'on vous montre les images Et ce qu'il appelle les images sensibles, vous les suivez à travers ces médias. Et nos médias, même nos auditeurs, les téléspectateurs congolais préfèrent entrer en contact avec la réalité. Et ce que dit souvent que il y a des images sensibles et consorts, est-ce que ces médias-là écrivent que ce sont des images sensibles? Non, nous les suivons tous. Donc, nous voulons entrer en réalité, en contact avec la réalité, l'information telle que ça se déroule. Je pense que la censure que nous les Congolais, la garde-fou que la législation congolaise met pour dire que de temps en temps c'est censuré, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait raison. Parce que si vous allez sur le code des investissements, les images dont on peut faire allusion pour protéger les enfants et consorts, c'est lorsque volontairement on veut publier la photo de quelqu'un. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement, est-ce qu'on va demander l'autorisation de qui que ce soit? Je ne pense pas. S'il y a une catastrophe, il y a du désordre au stade, il y a des blessés et consorts, on va les diffuser. Pourquoi garder, s'il y a des nombres de morts et consorts, pour dire que ce sont des images sensibles? Je voudrais tout simplement dire que non, il ne faut pas trop censurer. Lorsqu'il y a des réalités, des concrets, de l'information, on risque de ne pas donner l'information exacte et les gens commenceront à se méfier des médias congolais pour dire que non, il n'y a pas la réalité par rapport au vécu. Merci.
Voilà, merci John d'avoir appelé de Kinshasa. Jusqu'à récemment, on revient à vous. Vous avez suivi là, on a déjà deux avis partagés. Junior qui parlait plutôt, il s'est posé la question de savoir s'il existe vraiment une commission qui censure les images et qui fait cette commission. Et là, John qui a également appelé de Kinshasa, il lui dit, mais bon, il pense pas que ça puisse être vraiment des images sensibles, parce qu'il faut aider aussi les téléspectateurs qui suivent de bien s'imprégner de la réalité de ce qui s'est passé. Alors, à quel moment il faut bien traiter ces images pour éviter, parce que il peut avoir une réalité, un éboulement, un moment de terre, mais c'est à quel moment il faut se dire, voilà, ça on peut montrer et ça c'est pas bon de balancer ça à la télévision.
Merci beaucoup, Marcel, je voudrais saluer Junior et John. Et la pertinence de leurs questions démontre du caractère sensible justement de ce sujet. Alors, je voudrais commencer par recevoir les suggestions de Junior Bouyanamali pour dire que il a posé la question de savoir s'il existait des lois pour protéger. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission, il existe tout un arsenal de lois en rapport avec le droit, ce que nous appelons le droit de l'image. Il existe des lois au niveau du pays ici, même lorsque vous parcourez la loi sur le droit d'auteur. On fait allusion, même notre propre constitution déjà, je pense qu'il s'agit de l'article 24 de la constitution, parle de la protection de l'image de chacun de nous. Chacun a droit à une dignité humaine et définit les conditions dans lesquelles on peut diffuser l'image d'un individu. Alors, je disais que je partage avec lui les constats de dire que les contenus posent problème. Alors, il pose problème, pourquoi? Est-ce le résultat du laxisme? Je pense que oui, parce que souvent on a reproché aux instances de régulation, les CSAC pour ne pas les citer, de ne faire que de la police politique. Ils sont plus intéressés par les discours politiques plutôt que par d'autres aspects. Par ailleurs, je voudrais aussi ici charger le responsable du programme. Vous savez que la loi sur la presse impose les profils du directeur des programmes. C'est là la première question. Est-ce que tous les directeurs des programmes répondent-ils au profil défini par la loi? Parce que la loi en vigueur donne les profils et dit que le responsable des programmes doit d'abord avoir une qualification en matière de sciences de l'information et de la communication. C'est la loi qui le dit. Parce que au-delà de cela, il y a encore au niveau de la profession les codes d'éthique et de déontologie. Ce n'est pas inventé par moi. Vous pouvez lire, j'ai donné ici la référence, l'article 11 du code d'éthique et de déontologie en vigueur qui demande à aux journalistes de respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus.
Mais c'est justement ça, jusqu'à la préoccupation de Junior, vous parlez de la loi, mais les sanctions, il dit d'après lui...
Mais justement, ce que nous disons, c'est à chacun de tirer des conclusions, mais en tout cas, il est fait obligation à tout le monde de pouvoir les respecter. Mais pourquoi cela n'est pas fait? On a donné un premier élément de réponse ici pour dire que ces instances sont plus préoccupées par le discours politique, par la police politique, plutôt que par ces genres d'images. Alors, nous en venons maintenant à la question de John. Je pense que lui pense le contraire, estime qu'au nom d'une certaine liberté. Non. Si John a suivi même la dernière image à laquelle j'ai fait allusion sur le petit Alan, parce que hier, c'était encore dans les réseaux sociaux et même dans les médias, tout un débat. Fallait-il montrer cette photo d'un bébé de 3 ans mort, noyé, qu'on a retrouvé au large d'une plage turque? Il n'a qu'à entrer sur les sites des RFI et autres pour voir les débats. Effectivement, il existe des lois pour protéger les personnes. Et que cette matière est régie à la fois par les droits à l'information et le droit à l'image. Alors, John voudrait s'appuyer sur les droits à l'information pour penser que le journaliste, au nom de la liberté de la presse, doit tout montrer, doit parler de tout. Alors que l'image, elle est réglementée et il existe bel et bien des textes. Ils sont très nombreux.
D'après John, le téléspectateur doit aussi se faire une idée parce qu'on est, à la télé.
Justement, je donne un exemple. Oui. Lorsqu'on parle de la mort de quelqu'un, est-ce qu'il faut aller jusque dans la morgue, filmer comme on l'a vu avec un artiste et musicien qui est mort en Angola, pour ne pas citer. C'est une des images choquantes qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je pense qu'il s'agit du chanteur Babia. Sur une civière, déshabillé, le cadavre en train de subir les traitements au niveau de la mort, quelqu'un prend cette image-là et la balance dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin? Non. Il y a un ensemble de précautions à prendre pour montrer que quelqu'un est mort. On n'a pas besoin d'aller montrer des morceaux, des corps, et tout ça. Je crois qu'il n'a qu'à avoir. On ne demande pas ici une censure, mais une auto-censure. Et les journalistes prennent même la précaution de prévenir, dit attention, les images que nous vous montrons ici peuvent choquer certains esprits. Et à ce moment-là, on a prévenu, il nous arrive tous aussi de voir parfois des images brouillées par la mosaïque. Même autour de l'image du petit Syrien, il y a des médias, par rapport à leur législation, ont brûlé l'image. Je l'ai suivi sur France 2, par exemple. France 2 a brûlé l'image de cet enfant ou a montré deux enfants des dos. Je ne vais pas très loin. On a vu ici certains reportages sur les viols, par exemple. On ne montre pas à découvert les personnes victimes des viols. Nous avons l'habitude de suivre les personnes qui sont en instance judiciaire. Aux États-Unis, par exemple, les médias américains, eux, utilisent des images de synthèse. Il nous arrive de voir comme ça de dessins pour illustrer quelqu'un, alors qu'il y a d'autres médias par rapport à leur législation qui montrent. Donc, il y a des limites. Ce n'est pas une question de censure, mais une question de responsabilité, parce qu'une image fait partie de la personnalité de quelqu'un et il existe des conditions dans lesquels on peut diffuser une image. Donc, il n'est pas ici question de faire une censure, mais une auto-censure. Les structures existent bel et bien. Et donc, moi, je ne vois pas ce que viendrait faire ici les codes des investissements. Je suppose que c'est un lapsus, mais il existe un code d'éthique et de déontologie professionnelle applicable à tous les journalistes de la RDC. Et un code qui n'est pas très différent de celui utilisé par tous les journalistes du monde. Et donc, il y a un certain nombre de valeurs universelles, un certain nombre de précautions à prendre. Voilà un peu l'élément qu'on peut donner. Donc, il y a bel et bien un problème réel parce que ces images choquent certains esprits. Il y a personne ne voudrait voir son propre cadavre traîner. à moins qu'il soit traité dans un cercueil, et on sait comment le montre, mais on ne peut pas aller filmer n'importe quoi.
Donc vous insistez sur la responsabilité de médias par rapport aux images choquantes, des images sensibles, de savoir qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer pour ne pas blesser
voilà, l'intimité de chacun de voilà. nous. C'est un des droits fondamentaux.
Voilà, on poursuit avec deux autres auditeurs qui sont en ligne, Zachary qui nous appelle du Kananga, Trésor qui est à Kikwit. Zachary, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
On vous écoute, Zachary. Quelle est votre question?
Oui, je voudrais un peu aider notre invité par rapport à ce qui vient de généraliser les images choquantes. Bon, il faut qu'il soit un peu spécifique. L'image des jeunes choquantes, quand et par rapport à quel système hypothalamus d'un individu. Ça peut arriver que moi je peux observer, regarder une image pornographique. Pour moi, ça ne me fait rien. Mais une autre personne, quand il voit ça, ça lui pose des problèmes. Hein? Qu'il ne puisse pas généraliser toutes les images. C'est-à-dire, je voudrais aussi l'aider que nos médias et les audiovisuels que nous avons, c'est pour que ça puisse aider la population à bien visualiser une information et auditionner ça correctement, vérifier. C'est pourquoi les audiovisuels sont là pour nous aider. Ce n'est pas que ça peut diviser. Maintenant aussi, quel est le conseil qu'il peut donner aux responsables des médias, parce qu'on doit aussi catégoriser les médias. On doit avoir une chaîne. Ça, c'est telle chaîne ici qui diffuse les films pornographiques. Ici, c'est une chaîne chrétienne. Ici, c'est une chaîne communautaire. Ici, c'est pour des informations à la politique. Mais nous avons observé que, nous avons fait le constat que toutes les chaînes confondent les choses. Vous allez voir, même des chaînes qu'on préférait, on commence à donner des images là pornographiques. Pourtant, que nous sommes ensemble avec des familles, avec des enfants, avec des petits-enfants. Et c'est pourquoi je demande à notre invité quel conseil qu'il peut donner aux responsables des différentes chaînes que nous avons ici sur notre étendue de la République démocratique du Congo.
Merci Zachary d'avoir appelé du Kananga à Kikwit. Trésor est en ligne. Bonjour Trésor.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre.
On vous écoute, Trésor.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais peut-être, ce n'est pas une question de ma part à poser, mais faire une petite observation par rapport à ce sujet. C'est quand même un thème très important, parce qu'il y a des fois, on est blessé en suivant nos chaînes. En fait, l'invité a tout déjà étendu. L'information, c'est un droit de toute la population qui a le droit de suivre les informations, de suivre les images, parce que les images aussi entrent dans ce champ-là des informations. Mais ce droit-là est limité à la part des chefs ou des journalistes. Il a au fait insisté à la déontologie. Je vous prends un exemple, monsieur le journaliste, mais pour ne pas citer la chaîne. Une personne qui est présumée auteur d'une infraction, la chaîne n'est pas autorisée d'exposer son image au profit du public pour savoir, voilà, le monsieur-ci vient de violer, par exemple, tel. Non! C'est déjà contre la déontologie. C'est contre la déontologie. Parce que l'image de cette personne est protégée par la loi. Vous ne pouvez pas prendre l'image d'une personne sans son consentement, sauf si jamais cette image est exposée à des lieux publics. Même s'il a volé, même si l'auteur d'une infraction, au moins de qu'il y ait l'autorisation au contraire de la loi. Mais une chaîne qui croit être prête, même si quelqu'un a présumé l'auteur d'une infraction, comme lui-même l'invité venait de prendre un exemple d'un cadavre, vous allez, vous prenez l'image, vous exposez ça au profit de tout le monde. Ça, vraiment, ça nous blesse, nous qui profitons davantage toutes ces informations. parce que la personne, au départ, l'image d'une personne est protégée. Sinon, je voulais faire les observations par rapport à ça pour que les communs des mortels comprennent. Parce qu'à des fois, on est censé, quand vous suivez, bon, j'allais citer la Molière. Les Chinois sont prêts à saluer Papa Molière, yata, biso peto, Papa Molière, dino biso biso peto. Mais oui, Papa Molière, mais la personne qui est exposée, qu'elle soit auteur d'une infraction.
Voilà, Trésor, merci, hein, merci d'avoir intervenu. On n'est pas là pour citer Duchesne, on est en train de parler des médias de manière générale. Hein, donc c'est à chacun qui nous suit de voir quelles sont les chaînes où des fois on diffuse des images qui peuvent choquer. Donc on n'est pas là pour citer Duchesne. Merci Trésor d'avoir appelé l'équipe 8. James Sawoyo, vous êtes à Kindu. Bonjour James.
Bonjour, c'est James. Ah oui, oui, c'est...
On vous écoute, James.
Oui, j'ai des préoccupations que j'ai voulu soulever à notre étudiant, M. Giscard, justement. La première, c'est de me donner un peu la différence entre quand on parle d'une image sensible. Est-ce une image sensible? C'est une image qui est mensongère ou c'est une image qui est normale, qui est réelle? Si c'est une image qui est réelle, pourquoi alors la garder et de ne pas discuter dans une scène? La deuxième préoccupation est de savoir si une image sensible passe dans combien d'étapes avant de passer à la télé et qui l'autorise de passer à la télé. Pourquoi je demande cela? Parce que c'est très bien que M. Gilbert Roussema est parmi les responsables d'une scène de Kinshasa, que je me réserve de citer les noms. Est-ce qu'à ce temps-là, lorsque je travaillais à cette scène-là, il ne pouvait aussi les passages de ces images-là? Merci.
Merci à James depuis Kindu. Nicodème, lui, est à Lubumbashi. Bonjour, Nicodème.
Bonjour, la radio Gapi. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Nicodème.
Oui, j'ai deux ou trois questions à poser à l'invité. Je voulais voir la différence entre une image sensorielle et une image qui n'est pas sensorielle. Puis, c'était ma deuxième question. Je voulais poser la question à l'invité qu'il nous explique un peu si, par exemple, les gens qui affichent des affiches avec les images des enfants ou des grandes personnes qui sont caricaturées sans leur autorisation, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues par la loi pour cela?
Voilà, merci Nicodème d'avoir appelé de Lubumbashi. On revient à vous jusqu'à Kusema, vous êtes spécialiste.
Merci, merci beaucoup, je salue Zachary, Trésor, James et Nicodème. Alors je vais m'efforcer de répondre rapidement.
Mais il faudrait d'abord commencer par revenir sur la définition, parce que c'est important, hein, parce qu'on a commencé par ça au départ, c'est quoi une image sensible?
Merci beaucoup, c'était la question, je crois que Nicodème nous a pris en retard, James et Nicodème. Nous avons dit ici que par image sensible, on pouvait entendre toute image, généralement sur des personnes, hein, il faut qu'on le précise, généralement sur des personnes, une image fixe, c'est-à-dire une photo, une image animée, une vidéo, qui suscite une forte émotion. C'est une image aussi susceptible de créer un choc dans les esprits, une image bouleversante, des images horribles à avoir, c'est des images qui peuvent donc susciter de fortes émotions. Donc c'est ça qu'on peut entendre comme image sensible. On l'a dit ici, c'est des cas, des images des corps mutilés, des personnes grièvement blessées, des chiquetés, des images de corps humains en décomposition, des personnes mortes par suicide, enfin pendues, on le voit, des personnes pendues, des personnes victimes des viols ou en instance de justice. Et nous pouvions aussi assimiler à ces images sensibles des images sur les enfants, parce qu'il existe tout un droit sur les images d'enfants. Nous allons y revenir. C'était pour répondre déjà à la question de Nicodème, pour ça, sur les enfants. Il existe toute une législation sur le traitement des images d'enfants. On ne peut pas avoir exploité une image d'enfant sans l'autorisation de ses parents. C'est ce que dit la loi. Et il y a plusieurs instruments juridiques, qu'il s'agisse de lois congolaises ou de lois étrangère de loi universelle, je voulais dire. Alors, James qui nous dit, est-ce qu'une image sensible est une image mensongère ou réelle? Non, c'est une image réelle, on l'a dit ici. Mais sauf que toute image réelle se heurte aux restrictions que nous impose la loi. Peut-être qu'à force de voir la même chose sans que personne ne s'en plaigne, on a tendance à croire que ce qui est fait là est professionnel. Non, nous nous parlons ici de la loi qui ne s'applique pas seulement à un média dont j'ai fait partie. Non, je parle ici en tant que chercheur, ce sont des principes qui sont universels et ces principes applicables à tout le monde. Donc même moi qui vous parle, si je l'ai fait, je tombe sous le coup de la loi. On a dit ici les lois qui ne sont pas seulement pénales, mais des lois professionnelles. Les codes d'éthique et de déontologie, par exemple, qui est applicable, nous demande de préserver en tout instant la vie privée. Tout le monde a droit à la dignité humaine. Personne ne voudrait voir son propre cadavre déchiqueté montré à la télévision simplement parce qu'on veut faire croire. Il y a un certain nombre de précautions à prendre. Ce que je dis est universel. Donc, c'est à force de voir la routine, on a tendance à croire que c'est normal. Non, il n'est pas normal. Il n'est pas professionnellement autorisé de montrer toutes les images simplement par le simple fait de prouver que quelqu'un est mort. On a dit ici, on peut montrer la même image, on peut prendre une autre séquence pour les cas de l'enfant dont on a parlé ici. Un enfant face contre terre sur une plage, mais il y a d'autres médias, ils peuvent le remarquer, il y a d'autres qui ont pris une photo où l'image est brouillée, où on voit l'enfant, mais pas, on ne le voit pas de face.
Donc, par rapport à cela, il y a également cette question, il y a des trucs qui ont demandé, c'est lorsqu'on estime qu'une image est sensible, un peu choquée, et pas voir la durée par rapport à l'image.
Mais
et puis,
justement,
et puis,
ça fait partie des précautions, j'allais en arriver, voilà. Fait, oui. Il y a des astuces, on peut brouiller l'image, on peut juste une petite séquence qui ne permet pas en réalité à tout le monde, parce qu'il y a une durée pour qu'une image soit perceptible et visible à l'écran. Oui. Mais on peut la projeter à quelques secondes seulement. On a vu le président algérien, par exemple. Il a été reçu par les chefs d'État français. C'est une autre image sensible qui a fait le tour du monde. Vous aurez remarqué qu'il n'a pas été filmé en gros plan, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu en plein écran, mais on a vu une image de loin. De loin, on voit les choses autrement que lorsque l'image est approchée. Donc, un vrai journaliste sait qu'il y a un certain nombre d'astuces, des précautions à prendre pour des images sensibles, parce que chacun a droit à la dignité. Personne, généralement, lorsque l'on meurt, ok, bon, c'est une bouche ouverte, excusez-moi, c'est encore une caricature pénible à voir. Mais les cadavres qu'on nous présente dans un cercueil subit un certain nombre de soins esthétiques, n'est-ce pas? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc ce n'est pas toute image qu'on veut montrer parce que, ok, tout le monde a droit à la dignité, on ne va pas montrer quelqu'un qui a été tué comme un chien traîné, et on va montrer cette image choquante. Alors, James, je demande, est-ce que l'image sensible passe par combien d'étapes? Je vais répondre. Non, il n'y a pas d'étape ici, c'est de la responsabilité du journaliste qui a en face de lui son code d'éthique et de déontologie, mais qui a aussi en face de lui le droit, donc la loi. Il est censé connaître toutes les lois, ok, et principalement celles relatives à l'image. Alors, quant à Trésor, c'est une contribution, merci pour ces remarques. Je pense avoir répondu à ces quelques
avant de revenir par rapport à l'image, surtout lorsque vous avez parlé de la durée, ça c'est très très important d'y revenir. On prend d'abord les tout derniers auditeurs, Isidore qui est au Kassai Central. Isidore, bonjour. Bonjour Isidore.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Monsieur le journaliste, je voudrais poser une petite question à notre invité.
Oui.
Ceux qui ont projeté, qui ont montré l'image de Christ, notre Dieu, nu, torturé, est-ce qu'ils ont mal fait ou bien ils ont bien fait? Si une image est montrée pour faire ce qu'ils ont fait la vérité, qu'est-ce qu'ils trouvent de mauvais là-bas? Je pense qu'il y a des lois injustes, des lois qu'il faudrait corriger. Parce qu'ils portent atteinte, ils ne veulent pas que la vérité puisse triompher.
Merci.
L'enfant et moi a été trouvé mort sur je crois il a cité il a parlé d'un enfant qui a été trouvé mort. Puis l'image est montrée. Alors, c'est bien, nous devons connaître la vérité qui se passe dans le monde.
Merci Isidore d'avoir pris du casse central
réussi par rapport à Isidore. Alors j'ai rebondi sur cette question d'Isidore.
Oui.
Heureusement qu'il parle d'un cas précis. Et donc pour ce cas, il y a une forte polémique, qui est normal, il y a tout un débat. Fallait-il montrer ou pas? Donc il faut faire l'étude des cas. On peut être amené à montrer une image pour rechercher un effet. Et ici, par exemple, c'est de susciter, par exemple, une solidarité internationale. C'est tout un choc et les principaux responsables ont été amenés à agir. Hier, par exemple, Angela Merkel a pris une mesure en collaboration, en étroite collaboration avec la France pour dire que désormais, il faudrait qu'on apporte un quota. Donc voilà une image sensible qui a été diffusée et qui apporte de résultats. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être que cette image-là soit diffusée pour susciter cette compassion parce que jusque-là, personne ne pouvait s'émouvoir. Il y a eu 2000 personnes qui sont mortes dans des bateaux noyés, on n'en parlait pas. Mais c'est l'image d'un enfant et pour n'importe quelle personne fait de sang et d'eau a été sensible et voilà que ceux qui gèrent le monde ont été amenés à agir. Donc, il y a des cas, mais dans tout état de cause, il y a de restrictions. Ça, nous devons le savoir, ce n'est pas parce que
c'est ça le plus important à retenir, c'est-à-dire qu'une image est sensible, une image dont on estime que ça peut choquer, ouais. Et il faut prendre de la responsabilité, c'est-à-dire il faut savoir...
Question de responsabilité, effectivement, sur l'humanisme, mais dans tout état, ceux qui pensent que la loi n'existe pas, la loi existe, j'envoie tout le monde lire la Constitution, j'ai trouvé, c'est l'article 23, l'article 24, si vous voulez, la loi définit la liberté des presses et les restrictions à la liberté des presses. Parce que le gens, celui qui vous parle est un journaliste. Et donc, je ne peux pas dire que c'est parce que c'est la liberté des presses que tout nous est permis. Non, non. Le premier frein à la liberté de la presse, c'est la loi elle-même qui définit les limites de notre liberté d'exercice. Ce n'est pas parce que, j'insiste, que les choses se font comme elles se passent maintenant, qu'on va dire que la loi n'existe pas. Elle existe et que à n'importe quel moment, au nom de ces principes, au nom de cette loi, on peut traîner en justice un responsable de médias, un journaliste qui agirait autrement parce qu'en droit. Peut-être que si c'est par ignorance, peut-être que les gens se laissent faire, mais sinon chacun a droit et il doit donner le consentement pour ces images. Même pour le prisonnier, quelqu'un parlait tout à l'heure ici. Oui, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Donc, au nom du principe de la présomption d'innocence, même si c'est un flagrant délit, il a le droit à sa vie privée, il a le droit à sa dignité. Même un prisonnier a le droit à sa dignité. Il n'est pas ici question des rangs sociaux. N'importe quelle personne, n'importe quel individu a le droit à la dignité, à son image, et c'est cela, et nous devons de le dire, c'est peut-être par ignorance que les gens agissent autrement.
Donc, vous avez bien insisté, en tout cas sur la vie des personnes, toute image qui est à caractère émotionnel, une image choquante sur la vie des personnes qui peut nuire à la personne, et il faut prendre beaucoup de précautions avant de diffuser une telle image.
Oui, bien sûr, lorsqu'on traite une information relative à des situations douloureuses, par exemple, et qui invite des personnes dont la souffrance est le thème de l'émission, ils doivent veiller au respect de ces personnes, s'interdire une présentation complaisante ou indiscrète de leur désarroi. Vous savez, parfois, il y a des personnes, des journalistes, qui, lorsque parlent d'autres, ils prennent une mine qui frise même le mépris. Même tout ça est condamnable. Donc, on les sent parfois, ce sont des officiels, lorsqu'il s'agit de parler des opposants, par exemple, vous le voyez prendre un air de mépris, tout ça est condamné par la loi. Rien que pour ces faits-là, il peut être traduit en justice pour outrage à la vie privée. Donc chacun a droit au respect de sa vie privée et toutes les lois protègent en toutes circonstances, la liberté de chacun, c'est une parcelle de pouvoir que chacun doit avoir.
Voilà, merci. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Les informations,
les images pornographiques pour terminer ma
question. Un petit mot rapidement.
Oui, mais c'était la question de Zachary. Mais Zachary dit, lui, il n'est pas bon. Ça, c'est lui, mais on ne va pas généraliser pour dire que si lui est insensible aux images pornographiques, que les autres ne le sont pas. Et en plus, il parle bien d'une image que lui regarde seul. Ici, on parle des médias, c'est une diffusion en public. Ça choque les mœurs, ça heurte les mœurs, ça heurte notre culture. Et il y a la loi détermine les heures pour lesquelles on devrait diffuser ce genre de programme et des précautions à prendre. Je l'invite à regarder chaque fois qu'il y a un film au coin droit de l'écran. Vous verrez un petit cercle écrit moins 12, moins 16, ça, ce sont des tranches d'âge et qu'il appartient aux parents ou à ceux qui gèrent la télévision de dire attention, ces films ne vous concernent pas, n'y allez pas, ou bien on les diffuse à des heures pour lesquelles on considère que les enfants sont au lit. Donc c'est tout ça là, la loi elle existe, elle est opposable à tout le monde, chacun a droit à son image. L'élarcisme observé jusqu'ici ne devrait pas nous amener à banaliser les choses.
Voilà.
En tout état de cause, on devrait rester professionnel.
Merci Giscard Koussema, nous rappelons que vous êtes spécialiste en sciences de l'information, de la communication. Avec vous, on a parlé des conséquences de diffusion des images sensibles à la télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir.
Merci beaucoup Marcel.